Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. RFI, grand reportage. Marie-Pierre Olfan.
Bonjour à tous. Grand reportage s'intéresse aujourd'hui aux Kazakhs qui, après les Ouïghours, sont à leur tour visés par la politique de répression des minorités en Chine. Selon les défenseurs des droits humains, entre 800 000 et 2 millions de Chinois musulmans sont aujourd'hui internés dans ce que Pékin qualifie de camp de déradicalisation ou de centre de formation professionnelle dans le Grand Ouest chinois. Alors que les autorités chinoises invitent le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à se rendre au Xinjiang, RFI vous propose d'entendre les récits de familles kazakhes déchirées par la détention arbitraire de leurs proches en Chine. Vous entendrez aussi les témoignages également de ceux qui sont revenus des camps de rééducation chinois. Xinjiang, quand les Kazakhs de Chine tentent de fuir l'enfer des camps, c'est un grand reportage de notre envoyé spécial au Kazakhstan, Emmanuel Damien, à la réalisation Pierre Chaffanjon.
Shilai, la marche des volontaires, contrainte et forcée. L'hymne national chanté, rechanté jusqu'à la nausée. Au Xinjiang, la rééducation, le redressement des minorités passe par des cours de mandarin. Elle passe aussi par la récitation des chants patriotiques chinois. Nous sommes à Almaty, la ville des pommes au Kazakhstan. Coup de pelle des employés municipaux sur la chaussée enneigée. À 300 km vers l'est en direction des montagnes, c'est la frontière chinoise d'où est revenu cet ancien détenu des camps du Xinjiang, parka rouge, chapka enfoncé jusqu'aux yeux. C'était au printemps 2018. Les chants sont restés.
Shilai, l'Orient est rouge et sans le parti communiste, il n'y a pas de Chine nouvelle. Ces trois chants, on devait les apprendre. On nous demandait de les chanter tout le temps. Ils sont associés à une période très difficile de ma vie. J'ai dû rechanter ces chansons avant de repasser la frontière kazakh. Je ne veux jamais avoir à le faire.
Orinbek Koksebek ne veut plus qu'on le fasse chanter. Il ne veut plus non plus que d'autres subissent ce qu'il a vécu. D'origine kazakh, cet ancien détenu, âgé de 38 ans, a passé 4 mois dans 3 centres de rééducation en Chine. Comme d'autres, Orinbek est venu raconter son histoire au 3e étage d'un bâtiment situé près du grand marché d'Almaty. Dans un couloir, 3 petites pièces pour accueillir tout le malheur des Kazakhstanais du Grand Ouest chinois, avec dans l'entrée de grands cartons posés sur un bureau.
On est dans l'association Atayurt, où une ONG indépendante distribue de la nourriture et des vêtements à des familles qui manquent maintenant de proches, pères ou frères qui sont en Chine en ce moment.
Alors c'est dans des cartons, on voit, alors il y a du pain sur la table.
Oui, il y a de la viande, il y a de la viande crue dans des petits sachets qui sont sur la table, que je pense qu'ils vont distribuer aux gens.
Il y a des paires de chaussures dans des cartons, il y a des vêtements.
Oui, des vêtements, des baskets, des bottes, enfin on voit des foulards.
Comment la taille ?
Oui, 30. Est-ce qu'il y a des gens qui portent 30 ? Quelqu'un qui a 7 ans à peu près.
Qu'est-ce qu'elle est venue chercher, elle, par exemple ?
On se dit de l'aide pour ceux qui ont des proches qui sont restés en Chine. De la nourriture et des vêtements.
Selon l'association Atayurt, toutes les familles au Kazakhstan ou presque auraient aujourd'hui un proche dans les camps de rééducation en Chine. Les autorités chinoises parlent de déradicalisation. Un argument qui ici s'écrase sur le mur des pourquoi, surtout quand ce sont papa et maman qui disparaissent. Au fond de la pièce, une fillette, foulard dans les cheveux. Elle a 12 ans et déjà le regard usé par la folie des adultes.
Je m'appelle Janoub Torikhamarmar.
Marmar Torekan est de nationalité kazakh. 2 ans qu'elle n'a pas revu ce qu'elle aime plus que tout au monde. Chinois d'ethnie kazakh, ses parents avaient un permis de travail au Kazakhstan. Un jour, ils ont été rappelés en Chine pour des formalités administratives.
Ça fait longtemps déjà. Ils ont dit à mes parents qu'ils devaient retourner en Chine, puis ils sont partis. Au début, j'ai compté les jours, mais ils ne sont pas revenus. À l'époque, je ne savais pas qu'ils ne reviendraient pas. J'ai mes grands-parents, mais mes parents, je ne les vois plus. Je ne vois plus maman. Je ne vois plus papa. Et je ne peux pas leur téléphoner. Le téléphone ne marche plus. Au début, j'étais avec mon grand frère. Maintenant, il n'est plus là. Mon grand frère est mort. Il était tellement triste que papa et maman ne soient plus avec nous. On n'avait plus de nouvelles. Mon frère est mort et on m'a dit que mon père était dans un centre de rééducation politique en Chine. Pour ma mère, je ne sais pas. Mon papy et ma mamie n'ont pas de nouvelles d'elle. Ma maman est peut-être elle aussi dans un camp. Je ne sais pas. Je n'ai pas de nouvelles. On ne sait plus rien d'eux.
Pourquoi ses parents ont été arrêtés ? Est-ce qu'elle sait ?
Ils ont donné aucune information et ils ne le savent pas. Ils les ont appelés. c'est tout.
Depuis 2 ans, elle n'a aucune nouvelle de ses parents.
Non, elle sait rien.
Et elle vit avec qui, cette jeune fille, maintenant?
Et je vis avec mes grands-parents.
Évidemment, ils ne peuvent pas retourner en Chine pour aller voir ce qui se passe.
Ils sont vieux, ils ont peur de retourner là-bas.
La peur qui ronge les cœurs et durcit les visages. Dans la salle qui sert aux conférences de presse, ils sont plusieurs dizaines chaque jour à raconter la douleur de la séparation, face caméra, portrait de disparu à la main. Ces témoignages filmés sont publiés sur le compte YouTube de l'association, accompagné d'une lettre adressée à la présidence kazakh et au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Derrière la porte du petit bureau d'Atajourt, le ton monte. Qu'est-ce qui se passe derrière cette porte? Il y a tellement de monde ici.
Ils viennent chercher de l'aide pour leurs proches restés en Chine et qui subissent l'oppression des autorités suite au changement de politique en Chine ces dernières années.
Begzat, bénévole au sein de l'association.
Ils sont de la même famille, ils sont du même village. Parfois, ils ont fait la même école en Chine. Certains se sont vus confisquer leur passeport par la police chinoise et ils ne peuvent pas rentrer au Kazakhstan pour retrouver leur famille. La plupart d'entre eux se trouvent actuellement dans des centres chinois de rééducation politique, qui sont en réalité des centres d'internement. Tous les jours, une centaine de personnes vient ici demander de l'aide. Ça fait déjà un mois qu'on est dans cette situation.
On parle bien de Kazakhs et non de Ouïghours.
Oui, ici, il n'y a que des Kazakhs. La plupart sont des Kazakhs originaires de Chine. Ils ont obtenu la nationalité kazakh et ils parlent pour leur famille restée en Chine.
Pourquoi ces gens sont en centre de formation, en camp?
Les familles disent qu'il n'y a aucune explication à l'arrestation de leurs proches en Chine. Et certaines de ces arrestations ont été précédées d'un voyage au Kazakhstan. La plupart des détenus sont musulmans, mais ce ne sont pas des pratiquants.
Pratiquants ou non, les Kazakhs de Chine sont désormais dans la même situation que les Ouïghours. À une différence près, théoriquement, les Kazakhs peuvent changer d'horizon, Astana ayant appelé au retour des Kazakhs ethniques de l'étranger, ce qu'on appelle les Doralman, les revenants. Pourquoi alors les retenir en Chine ?
Parce que le Kazakhstan est voisin, les Kazakhs sont davantage en contact avec le reste du monde. Les Ouïghours ne sortent pas de Chine. Nous, les Kazakhs, nous faisons des allers-retours réguliers entre la Chine et le Kazakhstan. Je ne crois pas que les Kyrgyz de Chine fassent de même et reviennent souvent au Kyrgyzstan. Ils n'ont pas eu, comme nous, un appel au retour lancé par leur gouvernement. Pendant longtemps, les autorités chinoises ont joué sur la division entre Kazakhs et Ouïghours. Au Xinjiang, les Kazakhs n'aiment pas trop les Ouïghours. Maintenant, les Kazakhs font l'objet de la même répression que les Ouïghours. Mais même en dehors du Xinjiang, nous ne nous impliquons pas dans les affaires Ouïghours. Parce qu'on ne sait pas... Enfin, certains ont été reconnus comme terroristes. Donc on a peur de se mêler à eux. On essaye de se tenir à distance.
Il fait froid à Almaty. Sur le trottoir, des silhouettes marchent en pingouin, sac de course à la main pour ne pas glisser. Une barre d'immeubles gris dans un quartier excentré, une envolée d'escaliers. Une femme et deux petites filles nous ouvrent la porte de leur appartement. L'eau bout dans la cuisine, sur la table basse du salon, du pain ouïghour, des gâteaux, du thé. La jeune femme est sans nouvelles de son mari depuis plus d'un an.
Je m'appelle Basitova Gouzel, j'ai 34 ans. J'ai 3 enfants et mon mari est retenu dans un camp en Chine. Je ne sais plus quoi faire, je n'ai plus de nouvelles de lui depuis plus d'un an. Je ne sais même pas s'il est encore vivant.
Basitova est aujourd'hui kazakh, mais d'origine ouïghour. Son mari est ouïghour, il vivait de petits boulots au Kazakhstan. Vendeur sur le marché, ouvrier dans une briqueterie. Toujours la même histoire. Un jour, il passe la frontière chinoise et ne revient plus.
Mon mari s'est rendu en Chine en 2016 et en octobre 2017. J'ai reçu un message sur WeChat me disant « Il m'envoie en camp, occupe-toi bien des enfants, papa ne les abandonne pas, tout va bien se passer, mais il m'envoie en camp. »
Ça y est, l'eau est prête dans la cuisine, les courges de l'hiver sont découpées en dés pour être mélangées à de la viande hachée dans une bassine. Une manière de s'occuper l'esprit. C'est dur d'être Ouïghour en Chine, dit Basitova. Au Xinjiang, la jeune femme de 34 ans a été contrainte de retirer le hijab. Son mari a été envoyé en camp pendant 5 jours.
Mon mari est revenu très marqué par ses 5 premiers jours dans le camp. De retour à la maison, il parlait tout bas. Il avait peur de tout. Il nous a raconté qu'il est resté dans une pièce avec 50 autres personnes. Impossible de s'allonger dans le camp. Il fallait dormir une nuit sur deux en alternance. Une nuit, ce sont 25 personnes qui se couchent sur le sol, puis la suivante, c'est au tour des 25 autres. Tous les jours, on lui posait les mêmes questions. Pourquoi tu es parti ? Pourquoi tu as voulu changer de nationalité ? Des questions aussi sur la religion. Est-ce que tu as fait ta prière ? Est-ce que tu crois en Dieu ? Quand il est rentré, il n'osait même plus faire ses prières à la maison. Il faut savoir qu'au Xinjiang, les soldats peuvent ouvrir les portes des maisons quand ils veulent, même la nuit. Tous les livres sont confisqués. Ils rendent seulement les livres qui ne portent pas sur la religion. Tous les signes religieux sont interdits. On ne peut même pas dire « Assalamu alaikum ». Aller à la mosquée, c'est interdit. On ne peut prier nulle part. Du coup, on prie en marchant. C'est interdit par le Coran, mais on n'a pas d'autre solution. Mais ils ont compris. Maintenant, si vous marchez les bras croisés, ils vous arrêtent.
Prier en marchant. En retournant à l'association, nous passons devant la grande mosquée d'Almaty. La religion musulmane étouffée au Xinjiang, les autorités craignent la radicalisation des croyants accusés de séparatisme. En 2014, Behzat, le Kazakh, était alors étudiant à l'université d'Urumqi, la capitale de la province autonome ouïghour. Il assiste dans sa classe à ce qu'il considère comme de la discrimination, l'interdiction des signes religieux chez les étudiants.
Dès cette époque, ils ont interdit aux filles le port du foulard. J'étais contre et j'ai défendu les camarades ouïghours de ma classe. Certains m'ont dit que je prenais un risque en le faisant. C'est ce qui a décidé de mon départ pour le Kazakhstan. Je pense que cette interdiction de la dopa a été le début de l'oppression.
En 2014 marque le début de la répression pour les Ouïghours, selon ce militant associatif. Deux ans plus tard, elle va toucher la préfecture autonome kazakh d'Ili. Voici maintenant le témoignage rare d'un ancien interné. Après 12 ans passés au Kazakhstan, passeport kazakh en poche, Orinbek Koksebek décide de retourner en Chine voir de la famille. Mais dès la douane chinoise, ça se passe mal. Il ne parle pas le mandarin, on lui demande de signer un papier. Le 15 décembre 2017, il est interpellé. Analyse de sang, vêtements de prisonnier, le voilà derrière les barreaux.
Je me sentais comme un criminel. Je n'avais rien fait à personne et je ne comprenais pas pourquoi on m'avait enfermé. Il y avait 9 personnes dans la cellule, tous des Ouïghours. La nuit, on enlevait mes menottes au poignet, mais pas aux pieds. Et je devais monter sur le lit du haut avec les menottes. Le matin, on nous servait une soupe, le midi du riz et parfois de la viande. Et vous devez tenir vos cuillères droites, les baguettes droites. Sinon, on avait une punition. Après 7 jours, nous sommes sortis de la cellule, accompagnés de policiers chinois et Ouïghours ou Kazakhs. On m'a alors donné 3 raisons à ma détention. Premièrement, vous avez 2 nationalités, chinoise et kazakh. Deuxièmement, vous avez des dettes en Chine, ce qui n'est pas vrai. Et la troisième raison, vous êtes un traître à la mère patrie.
Pas facile de grimper sur un lit superposé, me noter, pas facile de comprendre pourquoi on en est là.
Comme je ne comprenais toujours pas pourquoi j'étais là, ils ont durci le ton. Ils m'ont demandé de reconnaître les chefs d'accusation, de confesser mes fautes. Je me suis défendu, j'ai dit que j'étais un citoyen kazakh. C'est là qu'ils ont sorti le document que j'avais signé à la frontière quand je suis entré. Ils m'ont dit « tu as signé la lettre pour demander à rester chinois ». Mais c'était un document mandarin et je ne savais pas ce qu'il y avait dessus. Je me suis défendu à nouveau. Là, ils m'ont mis de l'huile sur le bras et ils m'ont battu. Avec l'huile, ça ne laissait pas de traces. Ensuite, ils m'ont mis dans une sorte de puits. Il y avait un trou dans le sol. Un trou de la hauteur d'un homme. 1m70, pas plus de 2 mètres. J'étais déshabillé. Ils ont versé sur moi de l'eau glacée. Quand je suis revenu dans l'après-midi, à la cellule, j'ai perdu connaissance. J'avais tout oublié. Mes co-détenus m'ont dit que j'avais beaucoup crié. C'est tout ce dont je me souviens. Plus tard, ils m'ont mis dans une autre pièce. Je me souviens juste du numéro de la porte. C'était le numéro 8. Dans la pièce, il n'y avait que des Kazakhs. Et le surveillant était d'ethnie kazakh lui aussi. Ce dernier m'a dit que si je parlais un jour, si je parlais du puits, si je parlais de l'eau glacée, des coups que j'avais reçus, je pourrais mourir enfermé ici. Ils m'ont redit que j'avais accepté d'être chinois, que je n'étais pas kazakh. Puis on m'a donné 3 textes de chansons et on m'a dit de les apprendre par cœur. Vous avez 1 an et demi pour les apprendre. Si vous ne le faites pas, vous restez ici.
Au-delà des questions religieuses, il y aurait donc un problème de nationalité, de nationalisme dans les détentions de masse des minorités au Xinjiang. Pour comprendre, nous avons rendez-vous avec une juriste des droits de l'homme à Almaty, dont nous tairons le nom. Cette avocate voit défiler les proches des Kazakhs ethniques de Chine dans son bureau. De quoi parlent ces derniers rapports ?
Ils parlent des sérieuses inquiétudes pour les minorités ethniques, des oppressions des minorités et de la détention dans des camps politiques.
Qui sont les personnes qui viennent vous voir ? Là, on a par exemple une dame et sa fille dans le bureau qui trie des papiers d'identité, des photos. Qui sont les personnes qui viennent ici
Après qu'on a eu l'information sur les repressions contre les personnes ethniquement kazakhs, on a eu plein de demandes des gens ethniquement kazakhs qui ont des proches qui subissent des représailles. On prend leurs demandes et on les fait parvenir au ministère des Affaires étrangères.
Dans les dossiers qu'on a vus, la plupart des gens qu'on a rencontrés ici nous disent qu'ils ont été considérés comme traître, c'est le mot qui est employé. Pourquoi la Chine ne veut pas que les Kazakhs, ethniquement Kazakhs, quittent la Chine ?
C'est possible, mais dans la plupart des cas, ils parlent des représailles qui ont pour raison leur religion. C'est qu'on veut les forcer à abandonner l'islam, on les met dans des camps, on les force à manger du porc, et voilà, c'est plus la lutte contre les musulmans.
Vous avez des enfants en Chine, est-ce que vous avez des pressions du gouvernement chinois ?
Je suis mère seule, j'ai deux enfants. Mon fils a fait l'académie militaire en Chine et sa fille, ma fille a terminé les études de langue et maintenant elle est rentrée à la fac en Chine. Et oui, c'est la raison aussi de sa timidité et enfin, du fait qu'elle soit un peu restreinte dans l'interview, c'est qu'elle a peur de travailler pour une ONG de défense des droits de l'homme. Elle a même peur que certains agents peuvent passer certaines informations à la République populaire de la Chine.
Vos enfants, ils vous parlent des camps, des centres de formation, de rééducation. Ils vous en parlent quand vous voyez. Ça va être compliqué pour des jeunes Kazakhs d'avoir ces informations-là. Ils en parlent un petit peu en famille.
On a pour règle de ne pas parler politique avec les enfants. Ça a été décidé pour leur sécurité. J'ai demandé à mes enfants de ne pas avoir de livres saints chez eux, de ne pas prier fort, enfin de rester discret. C'est pour ça qu'elle est un peu émue et je ne parle peut-être pas de tout ce que je sais. Je m'excuse pour ça. En aidant ces gens-là, je n'ai pas envie de nuire à mes propres enfants.
Elle est bien évidemment tout excusée, notre juriste des droits de l'homme. Et on comprend avec ce témoignage combien la peur est diffuse au Xinjiang et même au-delà. On comprend aussi pourquoi autant de Kazakhs cherchent aujourd'hui à fuir le Grand Ouest chinois. Orinbek Koksebek, 125 jours de rééducation, dont 6 passés au cachot, au beignet vapeur et à l'eau.
On dit Karangeru, la pièce noire. C'est une petite pièce où peut tenir un seul homme. On reste 24 heures dans le noir. On nous donne un beignet et rien d'autre. Pas d'eau pendant 24 heures. Les jeunes y vont souvent. On nous dit qu'on doit apprendre plus vite le mandarin. Moi, j'y suis allé 6 fois. Le premier camp comptait plus de 3000 personnes. Les bâtiments n'étaient pas terminés. Puis en mars, on nous a transférés dans un nouveau camp. D'abord, nous avons été dans une ancienne école pour nous vacciner contre la grippe. Puis on nous a mis une cagoule sur la tête pour changer de camp. Ça a pris environ 20 minutes en bus. On était peut-être 500 menottés par deux pour le transfert. C'était un grand camp aussi, avec de nouveaux bâtiments. Ils m'ont proposé de prendre la nationalité chinoise. Ils m'ont promis un emploi, des aides pour la maison. Mais j'ai répondu que toute ma vie était au Kazakhstan et que je ne pourrais pas travailler ici. Ça faisait si longtemps que je n'avais pas vécu en Chine. Alors ils ont montré des photos de mes proches et ils m'ont dit: si tu parles à quelqu'un de ce que tu as vu ici, on ira chercher ta famille et eux aussi iront dans les camps. Ils avaient toutes les photos, tous les noms. Puis ils m'ont montré 2 documents. Ils m'ont dit l'un, c'est pour la nationalité chinoise, l'autre pour la nationalité kazakh. C'était 2 lettres en chinois. Je me souviens plus comment j'ai choisi, mais j'ai visiblement signé la bonne. Il y avait 5 personnes à l'intérieur de la pièce à ce moment-là. Un kazakh m'a tapé sur l'épaule et m'a dit: bienvenue mon frère, tu peux venir au Kazakhstan.
Bienvenue au Kazakhstan, face aux pressions de la communauté internationale, goutte d'eau dans l'océan des détentions arbitraires. 2000 Kazakhs du Xinjiang ont été autorisés à renoncer à leur nationalité chinoise fin décembre. Kazakhstan, la douleur des familles des disparus des camps chinois. Un grand reportage d'Emmanuel Damien, réalisation Pierre Chaffangeon.